Pour ce jour, nous lirons dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 21, les versets 25 à 36. Luc 21, 25 à 36. Mais avant la lecture, prions pour demander au Seigneur d'éclairer pour nous cette parole que nous allons entendre. Seigneur, ta parole est source de vie. Ta parole nous corrige, ta parole nous instruit, ta parole nous fortifie. Avec le psalmiste, nous voulons dire qu'elle est véritablement cette lampe qui éclaire notre chemin au quotidien. Maintenant, Seigneur, que tu veux nous parler en cette circonstance, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ton esprit, l'Esprit Saint, dispose nos cœurs à recevoir cette parole, afin qu'elle porte les fruits, Seigneur, que toi tu désires dans notre cœur. Merci d'utiliser, Père éternel, l'instrument, Seigneur, que tu as choisi ce jour, pour que sa bouche devienne ta bouche, et que ce soit tes paroles, Seigneur, qui sortent de cette bouche. Merci, Seigneur, de te glorifier puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen.
selon Luc chapitre 21, les versets 25 à 36. Le Seigneur nous dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra, de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez, le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Tenons nos lampes prêtes, être chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes prêtes annonceront l'époux qu'a répond. Avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Yeah. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, période qui marque selon le calendrier de l'Église le temps de préparation à l'accueil du Christ. Peut-être dans la commémoration de la Noël qui marque sa naissance, mais aussi attendre du Christ venant pour nous délivrer de ces parterres piégeux du monde, ou attendre du Christ qui vient comme juste juge. Quoi qu'il en soit, qu'on attende un visiteur qui vienne comme un nouveau-né ou comme un adulte, quel que soit son rang, il y a toujours un protocole à mettre en place. Dans l'attitude personnelle et dans le décor de l'environnement où celui qu'on attend vient. Pour comprendre notre texte, nous nous sommes trouvés comme obligés de remonter très très loin, parce que notre portion tombe un peu comme de nulle part. Nous voulons prendre la peine de la restituer un tout petit peu. Depuis Luc chapitre 19 au verset 29, on voit Jésus qui entre à Jérusalem. C'est le véritable début du chemin de la croix, si on peut le dire. Jésus entre à Jérusalem et il y aura à partir du verset 41 ses pleurs sur la ville de Jérusalem. Il regarde la situation de la vie des uns et des autres dans cette ville merveilleuse qui est comme le symbole, l'emblème même de tout le pouvoir d'Israël, et il se lamente. Il pleure sur la ville. Dans la suite, il va se retrouver au temple. Il regarde également ce qu'il fait au temple avec beaucoup de désolation. Il va chasser les vendeurs qui s'y sont installés et qui ont fait du temple du Seigneur une maison de commerce, un lieu de business, comme on dirait dans notre temps. Il sera très irrité contre les sacrificateurs. Ces sacrificateurs et autres vont donc se lever contre lui et lui poser une série de questions sur son autorité et bien d'autres. Le texte nous rappelle que pendant tout son séjour à Jérusalem, Jésus passait les journées au temple et chaque soir, il allait sur la montagne des Oliviers pour y dormir et prendre des temps de prière. C'était une coutume pour lui. Il va affronter de nombreuses questions très piégées des scribes, des sadducéens, des sacrificateurs, des pharisiens et autres qui seront tous progressivement censurés par les réponses fines et parfaites du maître. Il ouvre le chapitre 21 en opposant aux scribes une de leurs victimes, la pauvre veuve, qui donne son offrande telle un véritable sacrifice au devant de ceux qui enseignent mais qui ne se sacrifient pas eux-mêmes pour l'œuvre du Seigneur. Et pendant donc que Jésus donne cette série d'enseignements, il constate que quelques personnes sont dans une niaise contemplation des belles pierres et des offrandes qui faisaient tout l'ornement du temple. Vous voyez ce temple si merveilleusement peint, avec quelques recoins du ciel qu'on a tirés en ce lieu. Si on entre ici pour la première fois et qu'on n'est pas vigilant, pendant qu'on prêche l'évangile, quelques-uns seront en train de contempler les belles couleurs, les angles du ciel qu'on a amenés ici, ces peintures savamment faites. Et ils peuvent être distraits. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-là. Pendant que Jésus donnait les enseignements, il constate qu'il y a des gens qui sont distraits. Ils sont focalisés sur tous les ornements du temple, sur les belles pierres avec lesquelles on avait élevé ce majestueux temple. C'est alors que Jésus va ouvrir tout un autre pan de discours sur les événements de la fin des temps. Et il leur dira ces paroles. On est au verset 7. Non, verset 6 de chapitre 21. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Notre texte, Luc 21, 25 à 36, lui, il est plutôt relatif à la parousie, au retour de Jésus. Mais il fait suite à ce débat. Et on se demande donc ce qui amène Jésus à traiter ici de la question du retour de Jésus, qui semble n'avoir au premier coup aucun lien avec la question des apôtres, telle que posée au verset 7 de notre chapitre 21, où ils veulent savoir quand arriveront ces choses, à quel signe connaîtra-t-on que ces choses devront venir. C'est quoi ces choses qu'ils ont évoquées? C'est le renversement de Jérusalem, du mur du temple de Jérusalem, la chute de toutes ces belles pierres, tous ces ornements. Ça, ils sont dans cette question, dans cette introduction de Jésus-Christ. Mais Jésus va les pousser plus loin. La réponse de Jésus est simple. Dans l'esprit des interlocuteurs de Jésus, la ruine de Jérusalem et la destruction du temple ne sont que des indices de la fin de toutes choses. Les indices de la consommation totale du siècle présent. De sorte que Jésus ne pourrait pas parler de la chute de Jérusalem et du temple sans faire allusion à la fin des temps qui est marquée par sa venue à lui. De plus, mes bien-aimés frères et sœurs, l'application morale, spirituelle que Jésus veut tirer de cet enseignement et qui sont cachés dans les versets 34 et 36 ne se rattache pas à la ruine de Jérusalem, à la chute du temple, mais se rattache plutôt à la venue de Jésus lui-même. Rentrons un peu dans notre texte pour en tirer quelques petits éléments. Il dit, dès le verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Le soleil, c'est le symbole de l'autorité suprême. La lune, c'est le symbole des autorités dérivées. Les étoiles, c'est le symbole des autorités subordonnées. Il faut très bien comprendre ces images qui sont importantes et qui laissent traduire que quand le Christ va venir, aucune puissance, aucune domination, aucun pouvoir n'échappera au bouleversement qui va se produire. Quand le texte parle des hommes qui sont dans l'angoisse au seul bruit des flots et de la mer, quand le texte parle des hommes qui rentreront l'âme sur la terre par la simple terreur, il n'y a pas encore le mouvement lui-même, à la simple terreur de ce qui va venir, les gens rentreront l'âme. Dieu ne parle pas seulement de ce que nous pouvons appeler les petits nyama nyama, hein, les habitants des ghettos et des bas-fonds. Non, Dieu parle de tout homme. C'est pour ça qu'il introduit en parlant du soleil, de la lune, des étoiles, qui sont les différentes échelles des puissances qui dominent la terre. Et Dieu dit, tout ça sera ébranlé. De telles catastrophes naturelles, mes frères et sœurs, et morales, seront d'une telle intensité que les hommes, par simple peur, commenceront à rendre l'âme. Et c'est alors que le texte nous dit, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. La nuée est en général, dans les Écritures, le symbole du jugement. Un grand éclat lumineux, partant d'un bout du ciel à l'autre, dominant tout ce qui est, rappelant la présence, non pas du puissant, mais du tout-puissant. Rappelant la présence, non pas seulement du roi, mais du roi des rois. Rappelant la puissance, la présence, non pas du maître et du seigneur, mais du seigneur des seigneurs. Dont même la présence silencieuse dominera tout ce qui est. Jésus ne viendra pas sur la terre pour y fixer sa demeure. Non. Il y a déjà été. Il est parti dans sa demeure, la véritable, celle qui est le symbole même de sa gloire, sa domination. Cette venue doit être comprise comme une apparition spontanée à laquelle se rattachera la résurrection des fidèles, l'enlèvement de l'Église, puis la transformation morale et spirituelle complète de la portion de l'humanité restant sur la terre. Je voudrais reprendre. Il a dit que cette venue doit être comprise comme une apparition spontanée à laquelle se rattachera la résurrection des fidèles. La délivrance des fidèles. Parce que le texte utilise le mot délivrance. Quand vous verrez ces choses, vous saurez que votre délivrance est proche. Fidèles ici, c'est pas ceux qui sont fidèles à Tamja. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fidèles d'une paroisse, fidèles de l'église. Il y a même aujourd'hui les fidèles des pasteurs qui font les mouvements avec les pasteurs. C'est-à-dire quand le pasteur part d'ici pour une autre paroisse, il part aussi. Et souvent si le pasteur est allé très loin dans une paroisse où il peut facilement venir, par exemple aller dans une autre ville, il est très perturbé. Souvent sa foi prend un grand coup. Souvent il reste chez lui pendant plusieurs mois avant d'essayer encore de voir s'il peut revenir, quand même voir si le pasteur s'il peut un peu faire comme l'autre qui est parti là. Il y a des fidèles des pasteurs. Oui. Il y a des fidèles. Et c'est pour ça que vous verrez dans certaines communautés, le pasteur fait une bêtise, tout le monde s'enfonce. À l'église, on a des problèmes parce que les pasteurs ont fait des bêtises. Oui. Le pasteur fait une bêtise et tout le monde le suit comme les moutons, comme les bêtes. Mais s'il vous plaît, mais je ne veux pas diluer notre responsabilité, notre charge. Mais nous ne sommes appelés qu'à être des instruments de lumière entre les mains de Dieu. Mais si la lampe que nous sommes s'éteint, on va continuer à avancer. Mon frère, tu sens que le gars te conduit dans l'obscurité, tu pars où? Arrête-toi d'abord et tu lui donnes la parole pour voir. Tu vas avancer. Mais oui, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il s'agit des fidèles de Dieu, des fidèles de la parole, des soumis à l'Esprit Saint, de ceux qui s'attachent à l'œuvre du Seigneur. C'est pour eux que le Christ viendra pour la délivrance. Et non pas seulement de ceux qui ont mis leur nom dans le registre et qui ont disparu, qui sont les businessmen dans le temple du Seigneur. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le schéma, l'enchaînement de ce texte. Rendez-vous compte que Jésus entre à Jérusalem. Il entre dans le temple. qu'il renverse les troncs des vendeurs, qu'il chasse ceux qui ont fait le business dans la maison. Et c'est après ça qu'il donne cet enseignement. Est-ce qu'on a compris cet enchaînement? Dieu dit, ce n'est pas pour vous que je viendrai. Quand je viendrai à cet instant-là, vous n'aurez plus place. C'est les fidèles, les purs, qui seront délivrés. Il dit, ce sera l'enlèvement de l'église. Puis, la transformation morale complète et spirituelle de la portion de l'humanité restante. Voyez comment le texte dit ça. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La génération ici, ce n'est pas les gens d'un certain âge. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si vous comprenez génération, dit comme les gens compris dans un certain temps, dans l'âge, vous aurez échoué. Ici, il s'agit de la génération des gens qui se comportent d'une certaine manière, qui spirituellement, qui moralement, une certaine attitude. Un peu comme on a la génération des têtes baissées, la génération des androïdés. C'est ça. Ça n'épargne ni vieux ni jeune, parce que tout le monde est là-dedans. Hein. Vieux comme jeune. Tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on entend par génération. Les gens qui, vivant dans un même temps, ont un certain nombre d'attitudes, de comportements qui leur sont propres. Et Dieu dit, les gens de cette génération-là, ceux qui se tiennent de cette manière-là, ils ne passeront pas avant que ces choses ne s'accomplissent. Que nous enseigne ce texte aux allures bizarres? Je voudrais chuter. Deux choses. Première, c'est l'espérance chrétienne. La seconde, c'est la vigilance chrétienne. Au point de vue de l'espérance chrétienne, je voudrais dire une chose que vous savez. Même si on le sait, on ne veut pas en tenir compte, on ne veut pas y croire. Un jour, tout s'arrêtera et tout changera. Ça ne dépend pas de toi et de moi. Que tu le veuilles ou pas, comme tu constates seulement que tu es en train de grandir, n'est-ce pas? On constate qu'on est grandi. On constate que notre visage prend des signes de vieillesse. Ça ne dépend, même malgré toutes les batailles que nous faisons, la vieillesse est là. Oui, la vieillesse est là. Porte les vêtements des enfants de 16 ans. Fais la coiffure des jeunes de 12 ans. Si tu as 60 ans, tu as 60 ans. Ne t'ennuie pas. Tu n'auras pas la maladie des gens de 16 ans parce que tu as porté l'habit de 16 ans. Tu auras la maladie des gens de 60 ans. C'est naturel, ça va de soi. Les scientifiques parlent du phénomène de l'entropie, la dégradation naturelle de la matière. Mais ça nous fait comprendre qu'un jour, tout s'arrêtera et tout changera. Un jour, Jésus viendra et ça sera deux choses qui vont se produire. L'enlèvement des saints et le jugement des insensés. Ça ne dépend pas de vous. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu n'y crois pas. Ça ne change rien. Et j'aime souvent dire, vous voyez mon habit, il est noir, n'est-ce pas? Si vous voulez, voyez ça blanc, voyez ça bleu. Ça ne change pas le fait que mon habit est noir. Il en est ainsi de la venue de Christ. Un jour, tout changera. Prenons des dispositions dès maintenant. Nous sommes en pleine saison sèche déjà, n'est-ce pas? Qui croit qu'il va encore pleuvoir? Mais oui, vous pensez que la pluie est finie comme ça, il ne va plus jamais pleuvoir à Babsa. Il va pleuvoir. Mais il va pleuvoir, ça c'est évident. Pleuvoir, c'est pour ça que les mamans sont en train de garder les semences dans un bon endroit. Quand la pluie va tomber, ils vont les mettre en terre. On aura du bon maïs, des archers de frais et tout ça. Il va pleuvoir. Même quand on ne sait pas où la pluie est cachée. Même comme c'est le soleil qui est dehors, qui nous brûle et nous chauffe. Il va pleuvoir. C'est ça le symbole du figuier dans notre texte. Jésus dit, quand vous voyez des pousses sur les figuiers, vous savez déjà que l'été est proche. Vous ne voyez pas l'été de vos yeux. Vous et moi, on ne sait pas où la pluie est cachée. Elle est quelque part là-bas. Mais on sait que, à un moment donné, le soleil va commencer à baisser. On verra le ciel s'assombrir un peu. Et on sait que la pluie va tomber certainement dans les jours qui viennent. Et dès que les mamans voient ça, elles commencent à cultiver. Et d'ailleurs, certaines sèment à l'avance, comme dit le pasteur. Elles sont tellement confiantes, sûres dans leur foi, que la pluie va venir, qu'elles commencent à mettre les graines dans une terre pleine, de poussière. Et Jésus dit, il en est de même. Quand vous verrez un certain nombre de bouleversements se produit, sachez que la fin est pour le chrétien. Nous ne sommes pas faits pour vivre en ces lieux éternellement. C'est pour cela que notre œuvre comme chrétien doit être une œuvre de construction qui révèle les signes de l'éternité, les signes du royaume merveilleux vers lequel nous tendons tous. Chaque chose que nous faisons doit laisser transparaître les signes du royaume que nous sommes appelés à implémenter dès ces lieux. Parce que c'est dans ce royaume que nous vivrons. Deuxième aspect, du point de vue de la vigilance. Jésus met en garde contre les dangers de l'assoupissement spirituel. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez en vous attachant à la parole, en vous donnant les moyens de répondre à l'empressement que vous avez eu à dire à Christ, je crois. Veillez de peur de ne pas écouter la voix de l'Esprit qui certainement parle. Veillez de peur que le filet ne tombe sur vous à l'improviste. Bien-aimés, la force de notre action, la force de notre stabilité, la force de notre mission, la force de notre prospérité vient de la prière. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Je relis le texte qui dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Si tu veux être fort, échapper à des situations malencontreuses qui certainement vont arriver, tu as fait deux choses. Veiller et prier. Veiller et prier. C'est vrai, mes bien-aimés, que Jésus annonce des signes de ce cataclysme qui annonceront la fin des temps. Mais l'embêtement que j'ai, c'est que de temps en temps, nous-mêmes, nous créons des signes. Les bouleversements et des destructions pour les mettre au compte de Dieu, si on les met au compte de Satan. On met tout au compte de Dieu et de Satan. Les choses que nous avons créées. Dieu ne fabrique pas des menteurs professionnels. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan. C'est toi qui mens. Dieu ne fabrique pas des égocentriques et des gloutons qui ont pour seule vocation manger, boire, se laisser aller aux soucis de la vie. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fabrique pas des tricheurs professionnels. Dieu ne fabrique pas les immoraux sexuels, les corrompus, les pouvoiristes, les vendeurs d'images de l'Église et autres. Dieu ne fabrique pas ça. C'est nous qui les fabriquons. On ne peut pas créer nous-mêmes des problèmes et dire c'est le signe de la fin des temps. Ça veut dire que Dieu est en train de faire ceci. Jésus va. C'est nous. Non, non, monsieur, vraiment, laissez Dieu tranquille. Ne passons pas le temps à accuser Satan. La Bible dit que c'est Satan qui est l'accusateur, c'est pas toi. Ne pas faire le travail de Satan en accusant lui-même encore. Oh! Soyons sérieux. Au lieu de veiller à la parole, au lieu de veiller dans la prière, nous laissons aller à n'importe quelle folie. Après, on les attribue au Seigneur. On les attribue au Seigneur. Nos erreurs, ce sont nos erreurs. Ce sont nos erreurs. Tu dis que par simple peur, les gens vont mourir. D'accord, mais on est mort à Ézéka. 600, combien de personnes là? C'est Dieu? Vous pensez les œuvres? Ce sont nos erreurs. Si on bâtit ce bâtiment sans poser une bonne fondation, ça va tomber sur les gens. Ne mettons pas ça au compte de Dieu. Soyons vigilants. Veillons pour bien faire ce que nous avons à faire. Et quand on a bien fait ce que nous avons à faire, on prie pour que Satan ne nous prenne pas dans ses pièges. Ce n'est pas Dieu. Maintenant, je vais en venir à ceux qui sont les fidèles. Il y a un danger qui guette l'Église. Un danger grave qui guette l'Église. Nous les appelons, on pourrait parler pour les pasteurs de l'ecclésiocentrisme, pour les fidèles, je ne sais pas, c'est peut-être la paroissiocentrisme, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont très zélés, ils sont très engagés pour le Seigneur, ils sont toujours présents pour l'œuvre de Dieu, mais seulement dans leur paroisse. Seulement pour leur paroisse. Vous partez de cette paroisse pour une autre, qui est un vol d'oiseau à 2 km. Et vous voyez comment. Qui était content quand on chante tout à l'heure? On est tous contents, non? C'est très bien, non? Levez la main! C'est pas mauvais, c'est bien, non? On chante, c'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a des paroisses à côté où on ne connaît pas chanter. Et vous allez, si vous chantez bien, vous êtes fidèles, mais la façon de chanter ici, Dieu vous veut ailleurs. Mais c'est ça. Mais veillez à ce que ce soit bien fait là-bas. Mais veillez. Mais ça, ça tue autant l'expansion de l'œuvre du Seigneur que ceux qui se comportent mal, se tiennent mal, agissent mal, ainsi de suite. Nous, on se tient bien, mais seulement pour nous. On ressemble à ces personnes qui sont cachées dans leur chambre et qui disent, non, je ne veux pas moi les problèmes, je veux la paix, et je suis tranquille. Et tout ça. Même si on agresse quelqu'un à la porte de sa maison, il ne sort pas. Mon ami, quand on va finir d'agresser ceux-là, on va entrer. Ne t'ennuie pas, ça va te trouver. Tu ne n'échapperas pas. La Bible nous dit, le texte nous dit que il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Le filet ne tombera pas seulement sur certains, ça va tomber sur tout le monde. Et Dieu qui agit le filet va se charger de trier. C'est lui qui fait le tri. C'est pas toi, c'est lui. Veillez et priez. En tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Je voudrais dire la dernière phrase qui est celle de mon frère et collègue, le pasteur Edouard. Je veux résumer tout ce que je voudrais lui dire. Sa mission en ce lieu consiste tout simplement à aider le peuple à rester dans l'espérance et la vigilance chrétienne par la prière, par l'attachement à la parole, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen.